Truc culte. Truc culte.
En fait, c'est quoi un truc culte ? Dans ce podcast, des artistes me racontent les œuvres qui les ont marquées. Parfois, on part sur des tubes, comme King Kong Theory ou Persepolis, qui était à l'affiche des deux premiers épisodes de Trucs cultes. Et parfois, on découvre des films, des livres, des disques moins connus, voire même des ovnis, comme celui qui a littéralement foudroyé mon invité. Et justement, la foudre, c'est une bonne entrée en matière pour introduire l'artiste que je reçois dans ce troisième épisode. Mon invité est Jérémy Gindre, écrivain et plasticien genevois, qui évoque souvent dans ses récits la foudre et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes qui sont également présents dans l'œuvre culte qu'il a choisie, le film Der rechte Weg, le droit chemin, des artistes zurichois Peter Fischli et David Weiss.
Chaque fois que je le vois, je suis de nouveau épaté. Il y a une forme de captivation. Je suis captivé par ce film et je me rends compte aussi à quel point il a compté dans ma pratique et je ne cesse de retrouver des échos de ce film dans plusieurs de mes livres et dans certaines de mes expositions aussi.
Jérémy Gindre est né à Genève en 1978 où il a étudié aux Beaux-Arts. Après ses études, il a choisi de ne pas choisir entre différentes pratiques artistiques comme l'installation, le dessin et l'écriture de romans, de nouvelles et de livres d'art. Depuis 2006, il a publié 4 romans et recueils de nouvelles.
Les formes du relief, pas d'éclair centenaire, on a eu du mal, 3 réputations.
Des histoires qui nous emmènent aux quatre coins du monde et dans lesquelles il explore les thématiques qui le passionnent comme la géographie, la géologie, l'archéologie et l'histoire. Dans ses récits, la nature occupe souvent une place très importante.
Et est-ce que la nature est présente aussi dans l'œuvre culte qu'il a choisie ?
C'est même le décor principal du film Der rechte Weg.
Bin ich ein Schwamm ? Ist alles ein Spiel ?
Tout est-il un jeu ? Est-ce que la plupart vient de l'inconscient ? Suis-je malade?
Warum Krieg?
Les autres sont-ils fous?
Liebt man mich?
Est-ce que je me torture inutilement?
Lebt mein Stuhl?
Pourquoi la guerre?
Bin ich ein...
Peter Fischli et David Weiss, qu'on vient d'entendre, forment un célèbre duo d'artistes suisses qui ont commencé leur collaboration en 1979. Leur travail, qui a été exposé dans les centres d'art internationaux, s'étend également à de nombreuses pratiques artistiques. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil aux extraits qu'on trouve sur Internet de leur incroyable film-installation « Der Lauf der Dinge », le cours des choses, dans lequel ils réalisent un parcours où les objets interagissent dans un hallucinant effet domino. Dans le film « Der rechte Weg », sorti en 1983, Peter Fischli et David Weiss, déguisés en rat et en panda, se promènent en dissertant sur tout et rien dans la nature. 50 minutes d'errance complètement surréaliste qui sont devenues cultes pour Jérémy Gindre, que j'ai rencontré à Genève dans son atelier à l'usine Kugler.
C'est un film que j'ai vu de nombreuses fois. Donc à partir du moment où on voit les choses de nombreuses fois, c'est qu'on leur voue une forme de culte, j'imagine. Je connaissais déjà passablement le travail de Peter Fischli et David Weiss que j'avais découvert quand j'étais aux Beaux-Arts à Genève. Et donc je connaissais déjà leurs expositions, plutôt les expositions en fait, plutôt les œuvres plastiques et certains de leurs livres. Mais je connaissais pas ce film, je connaissais pas les autres films, à part bien sûr Le cours des choses, très célèbre, effet domino d'objets disposés dans leur atelier ou dans un hangar, je sais plus très bien. Mais je connaissais pas celui-ci, et puis quand je l'ai vu, celui-là, il y a vraiment eu un espèce d'effet de sidération, en fait, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et aussi d'étonnement de voir à quel point leur pratique pouvait être aussi diversifiée. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment compté pour moi.
Ich selbst komme aus einer großen, dicken Wurzel. Du wahrscheinlich auch?
Niemand weiß, woher ich komme.
Komm, ich war schon dort. Ich zeig dir, wie man in eine Wurzel hinein kann. Dort wachsen die großen Tiere. Es ist nicht weit. Komm mit.
C'est un film dans lequel les deux artistes jouent en costume de panda et de rat, et c'est des costumes qu'on dirait plutôt faits pour une fête costumée que pour le cinéma. Et le déroulement, c'est qu'ils se rencontrent un peu par hasard dans une nature qui est primaire, qui est une Suisse vierge de tout humain. Et ensemble, ils vont explorer une forêt, ils vont explorer une grotte. Ils suivent des torrents, ils se baignent dans un lac de montagne, ils traversent un glacier, ils vont se perdre dans une tempête de neige, ils font une sieste, ils mangent, ils chantent, ils construisent les murs d'une maison, ils sauvent aussi une tortue, c'est un moment que j'aime bien, et puis surtout ils discutent et surtout ils marchent. Et il y en a un qui est plutôt naïf, impressionné par la pseudo-sagesse de l'autre, et l'autre dispense des vérités qui sont définitives, mais en même temps il est toujours prêt à changer d'avis, à laisser tomber. Et ensemble, ils nous font redécouvrir un territoire connu, ils nous montrent une Suisse qui est vraiment inhabitée, qui est non domestiquée, et comme si c'est, voilà, tous ces paysages qu'on connaît et qu'on a dans l'œil et dans lesquels on va en vacances redevenaient une sorte de terra incognita.
Où il n'y a pas trace d'être humain, il y a quelques animaux qui traînent, un cochon, des chiens, une chèvre.
Voilà, ça c'est ce qui fait le plus ressembler le film à une fable, comme vous le disiez, qui est une fable qui est à la fois loufoque, mais aussi philosophique. Voilà, une fable, mais sans la morale à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué dans ce film, c'est à quel point c'est un récit initiatique où les personnages n'apprennent pas. Ils cherchent beaucoup à comprendre, mais ils n'apprennent pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retravaillé dans certains de mes récits aussi après.
Hier habe ich früher einmal versucht, alles aus der Luft in den Boden zu leiten. Alles umzudrehen. Na, gefällt es dir?
Du gehst sehr weit, sehr weit. Wo das hinführt, du bist mutig.
Man darf halt nicht ängstlich sein. Nichts unversucht lassen und zufrieden bleiben dabei.
C'est vrai qu'il y a, au niveau des petites phrases philosophiques, j'ai noté deux, trois choses en le voyant l'autre jour. Trois vérités comme ça, qui prises de manière détachée, pourraient presque être des proverbes. En fait, il ne faut pas avoir peur, il faut tout essayer, se contenter de ce qu'on obtient. Par exemple, je crois que c'est Laura qui dit...
Oui, mais c'est ça, ces vérités, elles tombent vraiment comme des rochers dans la plaine. Voilà, pendant tout le film, sont posées des questions fondamentales, mais vraiment fondamentales. Est-ce qu'on est mieux seul ou est-ce qu'on est mieux à deux? Comment s'entendre? Comment se réconcilier après une dispute? D'où vient la vie? Il y a cette scène dans une grotte où il découvre toutes les formes humaines, et, enfin pas humaines justement, plutôt animales et végétales, je crois, en gestation. Donc il y a des vieux mythes qui apparaissent aussi.
Das wollte ich dir zeigen. Hier wachsen alle Tiere ganz langsam. Wenn sie fertig sind, verlassen sie die Wurzel. So wie sie jetzt sind, kommen sie nur nachts heraus. Es ist verboten, hier reinzukommen.
Voilà, donc d'où vient la vie, qui a besoin de nous, comment aider les autres. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut avoir de grandes ambitions? Ou est-ce qu'il faut au contraire se contenter des choses simples? Et donc, ces questions ne sont pas du tout déguisées. Elles sont abordées très frontalement. Mais elles ne sont pas dramatisées non plus. Elles sont abordées d'une façon tellement frontale qu'elle devient forcément comique. Mais c'est un comique qui est débarrassé de tout cynisme.
Donc c'est un film en fait qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, aux artistes, à tout un chacun. C'est vraiment un film assez universel, aussi bien dans sa facture, enfin au niveau de l'image, que dans le discours, parce que bon, c'est un duo d'artistes quand même connu, qu'il a conçu, qu'il a tourné, mais c'est pas du tout concept en fait. En le revoyant, je me suis rendu compte à quel point en fait tout coulait de source.
Oui, alors ça, cette question de l'adresse, à qui ce film s'adresse, ça c'est quelque chose qui m'a frappé la première fois que je l'ai vu. Donc moi, je l'ai vu en 2001, à l'occasion de la sortie de sa version sous-titrée en français. Donc 18 ans après que ce film soit sorti, mais il était pas encore sous-titré jusque-là. Et je l'ai vu à la Biennale de l'image en mouvement de Feu, le Centre pour l'image contemporaine, qui était à Saint-Gervais. C'était un lieu où je travaillais, c'était mon premier job après les Beaux-Arts. Et j'avais été vraiment marqué par ce film quand il a été diffusé. Je l'ai vu même les deux fois où il a été diffusé pendant le festival. Je suis allé le voir les deux fois. Et puis cette question de l'adresse, pour quel public, la confusion dans l'adresse qu'on peut lui trouver. On se dit, OK, c'est un film donc en costume de rat, de panda. Est-ce que c'est un film pour les enfants? Est-ce que c'est un film pour le public de l'art contemporain? Pour qui est ce film ? On ne sait pas, et en fait, tant mieux. Et cette idée d'une adresse qui n'est pas dirigée, ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer aussi à mon travail, en fait, de pas me poser la question pour qui est-ce que j'écris ou pour qui est-ce que je fais les expositions, mais de les faire, et puis après de voir qui ça touche ensuite.
Non, Rechtweg. Et puis par rapport au... Vous disiez, voilà, vous l'avez vu en 2001, vous avez été le revoir à deux reprises au festival. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous avait marqué ? Est-ce qu'il y avait des... Peut-être dans la construction peut-être formelle du film quand même, cette... Alors non, c'est pas du tout un long plan séquence, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a été tourné très rapidement. Avec cette balade, on a presque l'impression de les suivre, de cheminer à côté de ce duo improbable du rat et de l'ours.
Eh bien, c'est exactement ça, en fait. C'est cette liberté formelle et à la fois de grande simplicité. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup dans le travail de Peter Fischli et David Weiss. C'est leur façon de réussir à aborder des thèmes très importants et graves et des questions vraiment philosophiques avec des petites sculptures en terre, un pneu qui roule et qui va faire tomber un seau d'eau, deux personnages déguisés de costumes comique, abordant des questions graves dans un paysage suisse. Voilà, c'est en fait cette façon de faire avec ce qu'on a sous la main, que je pratique aussi beaucoup, avec une paresse qui est, disons, calculée. Donc c'est le fait de ne pas aller chercher trop loin, de ne pas chercher à exceller forcément dans une discipline ou à définir son style, mais vraiment se laisser emporter par l'idée sur laquelle on est parti. Et puis après, voilà, d'enchaîner les choses. Et je pense que ce film, il m'a l'air d'être sorti d'une idée trouvée, je sais pas, au cours d'un repas, au cours d'une discussion comme ça, et puis d'avoir été fait comme ça, dans l'enchaînement, un peu dans un claquement de doigts, même si évidemment c'est quand même un peu du cinéma, donc ça a dû être, il a fallu tourner ça et trouver des lieux et répéter les choses, mais en tout cas dans la forme finale, on a une grande impression de simplicité et d'efficacité avec très peu.
Quelque chose d'assez libérateur, peut-être, quand on est un artiste, enfin, ou un jeune artiste, une jeune artiste, à voir ça en se disant « Ah, mais en fait,
c'est ça,
on sort d'une école d'art, ou peut-être on est bombardé d'injonctions, il faut faire comme ci, mais pas comme ça, mais attention, et d'un coup, on tombe sur Rechtweg. »
C'est complètement libérateur. Alors moi, j'ai fait les Beaux-Arts à une époque où c'était loin d'être bombardé d'injonctions et il y avait déjà une grande liberté dans la création qui était encouragée. Mais là, c'est vrai que ce qui m'a, comment dire, porté avec ce film et avec la pratique de Peter Fischli et David Weiss en général, c'est cette idée qu'on peut tout faire, en fait. Qu'il faut simplement choisir le bon moyen de raconter ce qu'on a à raconter et puis se décider à faire ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de suivre dès le début. Quand je suis sorti des Beaux-Arts, moi, j'y avais plutôt fait des films, j'avais travaillé aussi en duo avec un autre artiste qui s'appelle Frédéric Post, mais bref, j'avais fait plein de formes qui n'étaient pas du tout fixées encore, et j'ai essayé de, jusqu'à maintenant encore, de pas fixer de médium, ou de pas fixer comment dire, de pratique, et de pas faire de choix, de pas me dire bon, bah, est-ce que ce sera la littérature ou les arts visuels, est-ce que je vais faire des livres ou des expositions, est-ce que même dans les livres et dans les expositions je vais toujours faire le même genre ou pas, au contraire de passer d'un genre à l'autre avec la même souplesse et la même liberté que ces artistes m'avaient montré.
Avant de passer justement à vos différents travaux, à vos différentes pratiques inspirées par Derek Teveg, en le revoyant récemment, Derek Teveg, est-ce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui vous sautent aux yeux en le revoyant, ou bien vous, voilà, vous restez sur cette même impression que vous avez eue il y a 20 ans, en le découvrant la première fois?
Alors, je l'ai vu trop de fois, peut-être pour que j'y voie des nouvelles choses, mais c'est chaque fois un rappel, en fait. Des fois, c'est bon de se rappeler que, ouais, oui, il y avait cette idée qui était là, qu'on avait un peu mis de côté, qui flottait et qui restait un peu dans un grenier de l'inconscient, et que le film nous rappelle de « Ah oui, en fait, c'est de ça dont j'aimerais parler, et c'est de ça dont il parlait déjà. » Donc, c'est plutôt des formes de rappel. Mais je le vois avec toujours autant de plaisir à chaque fois.
Truc culte.
Dans votre pratique, Jérémy Gindre, dans votre pratique qui va du dessin à la publication de livres d'art, à l'écriture, écriture de romans, de nouvelles, aux installations aussi, il y a vraiment, c'est une pratique très multiforme. Comment est-ce que Der Rechtweg se manifeste ? Enfin, moi, j'ai une petite idée en ayant surtout beaucoup lu vos romans, vos nouvelles. Enfin, vous avez écrit 4 recueils de fiction, si je ne me trompe pas. Et puis, bon, beaucoup de livres, plus d'art, enfin, des choses plus à cheval entre différentes formes.
Oui, voilà, à cheval, je pense que c'est le bon terme.
À cheval et à pied.
Allons à cheval. Alors peut-être le premier dont je me souvienne qui peut-être découle du droit chemin d'Erich Steweg, c'est mon premier livre qui s'appelle La Fonte des Bois, qui est un roman photo, mais qui est un roman photo sans histoire d'amour et sans acteur. Donc il y a des photos et il y a du roman, c'est pour ça que j'appelle ça un roman photo, mais qui est aussi l'histoire de quelqu'un qui se perd. Cette fois, c'est pas dans les Alpes suisses, c'est en Laponie finlandaise. Et qu'on voit jamais, en fait, pendant toute l'histoire, c'est raconté en photo, mais on voit pas ce personnage. Ça pourrait être les photos qu'il a prises, ou ça pourrait être des photos documentaires de quelqu'un qui serait parti sur ses traces. Mais en fait, il y a cet égarement d'un touriste en Laponie finlandaise, et puis on va essayer de reconstruire son voyage et partir sur ses traces et essayer de voir ce qu'il a expérimenté. Et donc pour moi, c'est quelque chose, quand je le vois maintenant et que je le mets en relation avec Erich Steweg, c'est évident en fait qu'il y a filiation. Mais après, ce film, il a ricoché dans plein d'autres livres, je pense peut-être alors directement géographiquement avec un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle « Losange sur pierre des Alpes suisses », qui est un genre de guide de randonnée autour des losanges jaune qui balise les sentiers de randonnée de moyenne montagne en Suisse et qui est à la fois, je le disais, un guide de randonnée, mais aussi à une sorte de d'essai sur l'archéologie et le losange jaune peint sur pierre comme une forme d'héritage de la peinture rupestre. Et donc cette idée de redécouvrir la montagne et une forme qu'on a dans l'œil et qui est très connue, mais sous un regard nouveau, c'est aussi complètement héritier de ce qu'on voit dans Erich Steweg.
Et puis, la balade, l'errance, la montagne, j'imagine que c'est quelque chose qui fait aussi partie de, non pas de votre pratique, mais peut-être de vos activités.
Oui, alors la marche et le paysage, j'en parle même pas parce que c'est tellement évident qu'il faut quelqu'un d'extérieur pour le souligner, donc merci. Évidemment que ce fil rouge de la marche et du paysage, et en particulier du paysage de montagne, c'est quelque chose qui est vraiment ultra présent et ultra récurrent dans ce que je fais.
Et comment est-ce que le paysage imprègne ensuite le personnage? Alors j'imagine vous, mais aussi vos personnages par exemple dans un roman que vous aviez aussi écrit, qui est sorti aux éditions Zoé il y a quelques années, Pas d'éclair centenaire,
oui.
Dans lequel, alors là on est dans l'ouest canadien?
Exactement, oui, on est dans les prairies de l'ouest canadien, donc il y a peu de montagnes, il y en a quand même à la fin, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire aller mes personnages dans les montagnes. Cette prédominance du paysage et cette ascendance du paysage sur les personnages, ça c'est quelque chose qui est récurrent en fait. Moi, mes personnages sont souvent des formes de coquilles vides ou de costumes vides, pour faire écho au panda et au rat d'Erich Steweg. C'est souvent ça, en fait. C'est des personnages qui sont un peu des costumes. Et puis moi, je rentre pas dans leur psychologie, mais j'imprègne leur psychologie du paysage et des endroits où ils sont. C'est-à-dire que plutôt que de dire ce qu'ils pensent, je les mets dans un endroit avec une météo et un cadre qui montre leur état d'esprit, leur joie, leur tristesse, leur mélancolie ou leurs illuminations. Et c'est plutôt par le paysage reflété et dans les actions des personnages que je décris ces états d'âme plutôt que directement.
Geh mal auf die Knie, ich werde dir zeigen, wie das geht.
Nein, wie denn?
Also, zieh den Kopf ein, gut, streng dich an, ja. Sammle deine Kräfte, bis es blitzt. Ja.
Es geht nicht.
Nicht so schnell aufgeben. Mehr Druck geben und warten. Ja. Warten können muss man lernen. So schnell geht das nicht.
Une météo qui peut être assez rude aussi. Ça aussi, ça m'a fait penser à des Erich Steweg.
Oui, il y a
étant donné
souvent,
que d'un coup,
effet,
il y a des phénomènes météorologiques qui se
exactement.
Prennent la foudre. Il y en a un qui arrive même à faire.
Souvent, la foudre est très présente.
La tempête, le vent.
Alors, les orages, il y en a tout le temps. Et c'est même dans le titre de Pas d'éclair sans tonnerre. C'est une espèce de fable autour de la météo, presque. La foudre revient souvent. Je pense à une nouvelle qui est dans le recueil qui est sorti l'an passé chez Zoé aussi, qui s'appelle Trois réputations. Dans une nouvelle, il y a un personnage qui se prend la foudre et qui voit sa vie changer à la suite de cette illumination venue du ciel.
Le titre de la nouvelle, c'est « Foutre sur conifère, vie et mort » de Janie Plantier. C'est,
oui,
c'est juste donc c'est cette femme, ce personnage qui est très particulier, en fait, voilà. Enfin, il faut le lire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui vit dans les Alpes, qui se bat, enfin, qui est presque une militante écologiste avant l'heure.
Exactement.
Étant donné qu'elle se bat contre la construction d'un barrage qui va inonder la vallée dans laquelle elle est née, dans laquelle elle grandit. Donc voilà, elle va faire des actions de plus en plus terroristes, extrêmes, et puis à un moment donné, elle se prend la foudre. Et justement, en parlant de cette nouvelle, j'ai vu dans votre catalogue d'expositions qu'il y a une exposition qui s'appelle aussi « Foudre sur conifère ».
Oui, alors « Foudre sur conifère », c'était d'abord le nom d'une exposition, et puis le nom d'une nouvelle. Mais en fait, plus que de répéter un titre que j'aimais et de le réutiliser, c'est aussi une façon de rappeler, en fait, une œuvre dans une autre. C'est-à-dire que « Foudre sur conifère », c'est une exposition qui se tenait dans la même vallée où se passe la nouvelle et qui parlait des mêmes questions, de la, en fait, du changement du paysage par l'action des humains. Mais ça va de, voilà, de la construction d'un lac de barrage au camping, aux stations de ski, à toutes ces choses qui, en fait, marquent le paysage de la présence humaine. Et puis, c'est les mêmes questions qui travaillent la nouvelle. Et comme ça se passait au même endroit, et que ça tombait drôlement bien, puisqu'il y avait aussi une question de foudre, pour moi, ça posait pas du tout de problème de réutiliser le même titre. C'est un effet de déjà-vu. Et je pense qu'il y a aussi ça dans le titre du film dont on parle aujourd'hui, de Rechteweg, parce que le droit chemin, dire c'est un titre qui pourrait appartenir à tellement d'œuvres, ça pourrait être, je sais pas, une peinture biblique, ça pourrait être plein de choses, une leçon de vie, un guide de développement personnel, ça pourrait être plein de choses. Donc il y a quelque chose dans la neutralité ou dans l'effet caméléon de ce titre qui moi aussi m'a marqué à cette époque parce que l'importance et l'ambiguïté de ce titre, elle laisse plein de choses ouvertes, en fait. Et on peut interpréter ce film après sous l'éclairage de ce titre, de se dire, OK, alors qu'est-ce que c'était le droit chemin pour ces deux personnages? Ben, en fait, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de droit chemin. Il y a que le chemin que le hasard nous fait prendre et que ces personnages ont été amenés à prendre. Mais voilà, cette ambiguïté dans la compréhension du titre, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille souvent, en fait. L'importance du titre
pour ne pas diriger déjà la personne qui va lire.
Pour ne pas diriger ou au contraire pour surdiriger, pour donner de façon presque massive ou imposante comme ça une direction, une compréhension de l'œuvre avant de la lire ou de la voir.
C'est vrai qu'en lisant par exemple le titre « Pas d'éclair centenaire », on peut s'imaginer une vaste fresque un peu monumentale dans laquelle peut-être les principaux protagonistes vont subir des affres et des tourments et je ne sais quoi. Alors qu'il s'agit d'un ado, en fait, on commence avec un jeune ado qui fait, en fait, c'est un peu un Tom Sawyer de la fin du XXe siècle.
Oui, alors même plutôt Huckleberry Finn.
Voilà, plutôt Huckleberry Finn, voilà. Tom Sawyer est presque trop sage, trop ancré.
Mais c'est vrai qu'il y a ça, et puis il y a un effet un peu dicton dans ce titre, Pas d'éclair centenaire, et c'est un dicton qui demande, comment dire, qui fait un peu remuer les ménages pour essayer de comprendre le sens qu'il peut avoir, et qui est un sens qui apparaît ou qui apparaît camouflé au cours du roman.
Donc pas de montagne tout de suite, pas d'éclair centenaire, mais quand même ces amours pour la pierre, étant donné que le personnage principal, Donald, va devenir archéologue, enfin va étudier l'archéologie, et il est passionné effectivement par l'étude de son territoire, il est passionné par l'histoire des Amérindiens qui ont peuplé le Canada, il va s'intéresser dès tout jeune aux vestiges qu'ils ont pu laisser. Cette passion justement pour la pierre, pour la géologie, mais aussi l'archéologie, enfin on reste quand même dans le domaine assez minéral, c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans votre travail, Jérémy, et qui, enfin, puis la pierre qui est très présente également aussi dans Rechteweg. Alors, je ne sais pas si c'est encore un fil qu'on peut tirer.
Alors, c'est tout à fait un fil qu'on peut tirer, en fait, parce que cette question de comment lire les traces et comment les interpréter, qui est très présente, en effet, dans Pas d'éclair centenaire, puisque le personnage principal, Donald, essaye de faire ça, en fait, essaye de comprendre le territoire où il vit en lisant les traces qui ont été effacées par les différentes vagues de civilisation, mais aussi les tornades et l'érosion et toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on lit des choses qui sont à moitié ou presque totalement disparues? C'est aussi présent dans Der Rechteweg. Je me souviens d'une scène que j'aime beaucoup où ils essayent de comprendre la formation des cheminées de fées ou des pyramides. C'est l'exemple des pyramides de Zeng.
Avec des pierres posées sur les...
Avec voilà, ces pierres qui sont posées en équilibre instable sur des restes de moraines très friables.
Hast du sowas schon mal gesehen?
Nein. Also, dass die nicht runterfallen.
Die sind gut angemacht.
Die hast aber nicht du da hinausgetan.
Doch, doch. Es ist lange her. Man muss außerordentlich ruhig bleiben. Nicht schwatzen, warten. Dann wird man wie sie.
Et en fait, ils essaient de comprendre comment ça s'est formé et on les voit les deux se poser une grosse pierre sur la tête et essayer d'attendre que la pyramide se forme autour d'eux. Donc voilà, il y a un geste complètement absurde mais qui aide à essayer de comprendre comment le territoire agit et quelles sont les traces et comment on les interprète autour de nous.
D'ailleurs, j'avais lu que vous aviez été vous joindre à une équipe d'archéologues. Vous imprégnez plus de ce travail-là?
Oui, alors c'est une des résidences que j'ai faites, qui était une résidence sur le site archéologique de Bibracte en France, sur un site archéologique celte.
Donc plein de cailloux aussi, plein de couches plein comme
de,
ça qui
plein
sont...
Plein de cailloux frottés, balayés,
des strates découvertes.
Des strates découvertes, exactement.
Aujourd'hui, donc si on... Voilà, si... pour pousser toujours ces différentes thématiques de Der Rechte Weg dans les travaux que vous avez en prévision. Est-ce qu'il y a des, comme ça encore des fils, on parlait de fils ou des strates de ce film qui pourraient se manifester à nouveau dans votre travail ou quand vous avez déjà en prévision? Qu'est-ce que, voilà, est-ce que vous avez envie d'explorer certaines choses encore en lien toujours à ce film qui vous avait marqué, qui vous marque toujours?
Oui, alors je pense que c'est encore présent. En fait, je me suis rendu compte en vous proposant ce sujet-là comme truc culte que j'étais encore emprunt de Der Rechte Weg, parce que là, je viens de terminer aujourd'hui une résidence d'un mois à la bibliothèque de Genève, essentiellement dans le fond de cartographie, donc le département des cartes et plans, mais aussi autour des affiches de tourisme. Et cette question, en fait, de comment est-ce qu'on comprend un territoire et comment est-ce qu'on le raconte, même si c'est des endroits hyper connus, comme dans Der Rechte Weg, à un moment, on voit le Cervin, on connaît tous le Cervin, mais tout à coup, dans ce film, on a l'impression de le voir, alors soit comme la première fois, soit comme, au contraire, une vision qu'on connaît tellement que c'est une espèce d'icône. Et je m'intéresse de nouveau à ça, en fait. Donc je me dis que c'est vraiment un film qui me poursuit, ou en tout cas que je n'ai pas fini d'en explorer les liens avec ma pratique.
Et les cartes, c'est quelque chose aussi qui se manifeste dans votre travail ou pas? Parce que là, on parle beaucoup de balades, de symboles qu'on trouve inscrits sur des pierres pour indiquer les randonnées. Et puis la carte, vraiment le support qui permet de manière concrète et tangible de se diriger dans un territoire. Est-ce que ça vous intéresse aussi?
Alors moi, je suis grand fan de cartes depuis très longtemps et je suis même revenu au dessin par les cartes. J'étais fasciné par cette idée, en fait, que voilà, moi, j'avais suivi des études plutôt de beaux-arts où quand on... logiquement, quand on voit un paysage, on va plutôt peindre l'image du paysage, alors que la cartographie va s'appliquer à dessiner ses contours et dessiner les ingrédients. Et en fait, cette idée de dessiner ce qui fait le paysage plutôt que ce que montre le paysage a été une forme de révélation pour moi, et c'est par là que je suis revenu au dessin. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse depuis peut-être une vingtaine d'années, un bain dans lequel j'ai été vraiment... plongé et immergé à souhait ces dernières semaines, avec la chance d'explorer justement tout le fond cartographique de la bibliothèque de Genève.
One hundred and 11 years ago, when I was 10 years old.
Between 1858 and 1878, Jack Crabb was an Indian warrior, a preacher's ward, a gunfighter, a drunkard, a hermit, and he tried to kill General Custer.
Take him away and hang him.
And you can believe as much of that as you want.
On parlait de Der Rechte Weg. Parmi d'autres, est-ce qu'il y a d'autres films, d'autres livres, d'autres ouvrages ou œuvres qui explorent à peu près ces mêmes thématiques du cheminement, de l'errance du territoire, de la nature, qui vous ont aussi marqué, enfin, qui vous ont inspiré, Jérémy, qui vous inspire encore aujourd'hui?
Alors, il y a un film auquel je pense et qui était un peu mon deuxième choix, c'est Little Big Man d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman, Parce qu'il y a cette idée aussi, on parlait du fait de ne pas choisir ou de ne pas trop définir sa pratique et de ne pas choisir son camp, en gros. Et donc, dans ce film, il est question de ça. Il est question d'un personnage joué par Dustin Hoffman qui, pendant tout le film, n'arrête pas de changer de camp. En fait, il est enfant de pionnier. Il se fait capturer par des Sioux et il est élevé avec les Sioux. Et puis après, il va revenir dans les rangs plutôt des colons et devenir un as de la gâchette. Et ce va-et-vient entre les cultures et entre les civilisations, et cette façon qui est décrite aussi de façon très comique comme une forme de lâcheté du personnage, eh ben c'est aussi une grande forme d'adaptation et une revendication de ne pas vouloir choisir son camp et de vouloir simplement vivre sa vie avec toute la liberté qu'il peut avoir, qui est vraiment, vraiment quelque chose qui m'a frappé. Alors ça, c'est un film que j'ai vu enfant et que j'ai revu après beaucoup de fois, et notamment quand j'écrivais « Pas d'éclair sans tonnerre ». C'est un livre, alors non seulement parce que ça se passe dans la même région qui est décrite dans mon roman, mais aussi parce que c'est un film qui fait écho aux cultures auxquelles s'intéresse le personnage du roman.
Truc culte.
Et vous, c'est quoi votre truc culte? Envoyez-nous un message vocal par mail sur trucculte@rts.ch en expliquant quelle œuvre vous a marqué et pourquoi. Vous pouvez trouver les films de Peter Fischli et de David Weiss dans de nombreuses bibliothèques. Et pour découvrir le travail de Jérémy Gindre, allez jeter un coup d'œil sur son site www.jeremygindre.ch. Dans deux semaines, je vous retrouve pour le prochain truc culte en compagnie de la violoniste et chanteuse Gillian Canizares, dont l'un des livres de chevet est le recueil de poèmes « 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée » du poète chilien Pablo Neruda.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca.
Truc culte, c'est un podcast de la RTS proposé par Agnès Léveillé, coproduit par Grégoire Moll et réalisé par Jean-Philippe Tsvalen. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller le noter car ça permet de faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Truc culte s'écoute sur l'application Play RTS, Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes de streaming audio. Prochain épisode dans deux semaines.